Je suis responsable média diversité au sein du Conseil de l'Europe. J'ai été responsable pendant 2 ans, entre 2008 et 2010, d'une première campagne développée par le Conseil de l'Europe, qui était la campagne dite non à la discrimination, qui était la première activité développée par le Conseil de l'Europe en direction des acteurs de l'industrie médiatique. Et quand je dis acteurs, ça veut dire que c'est tous ces acteurs, qu'ils soient journalistes, éditeurs, diffuseurs, propriétaires de médias, régulateurs. Activité qui consistait à voir comment, avec eux, on pouvait mettre en application l'ensemble des recommandations et résolutions développées par le Conseil de l'Europe, que ce soit son comité des ministres ou l'Assemblée parlementaire, sur la question médiadiversité, sachant que depuis 1995, le Conseil de l'Europe s'est complètement investi de la question, parce que c'est un enjeu de participation de toutes et tous au débat démocratique et public, mais c'est aussi et surtout un enjeu de cohésion sociale. Il est apparu au milieu des années 90 pour le Conseil de l'Europe. Après, ça peut peut-être surprendre plein de gens que je dise ça, mais je pense qu'avant le Conseil de l'Europe, peu de gens s'étaient posé les questions. Il est apparu en tout cas que l'information soit majoritairement dominée par des hommes blancs, généralement de plus de 45 ans, généralement appartenant aux classes moyennes supérieures, était complètement en décalage par rapport à ce que sont nos sociétés européennes aujourd'hui. C'est pourquoi depuis le milieu des années 90, au sein du comité directeur médias, société de l'information, donc qui est une branche du comité des ministres, ils se sont emparés de la question pour construire un cadre normatif fait de recommandations, de résolutions, invitant les États membres du Conseil de l'Europe à plus de diversité au sein des médias. Plus de diversité, pour nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire plus de diversité en termes de visibilité, mais aussi plus de diversité en termes d'expression. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, cette diversité des populations constitutives de nos sociétés doivent pouvoir être visibles, entendues, lues, que ce soit en radio, en télévision ou en presse écrite, voire maintenant en multimédia, mais qu'aussi que les thèmes, les questions, les sujets, que cette diversité de nos populations, que ces sujets puissent être pris en compte. Et le Conseil a toujours travaillé sur ces deux axes en même temps. C'est-à-dire qu'il est important de voir, il est important d'écouter, mais il est aussi important d'entendre ce que d'autres, ou en tout cas celui qui est perçu comme autre, a à dire. C'est pour ça qu'effectivement, il y a eu cette première période au sein, puisque le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale de 47 États membres, travaillant sur la défense, droits de l'homme, démocratie, au travers de l'État de droit, que dans ce cadre, et dans le cadre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défense de la liberté d'expression, de l'article 14, protocole 12, interdiction générale de la discrimination, qu'il était important pour le Conseil de l'Europe de développer des programmes permettant à toutes et à tous d'être inclus dans les productions médiatiques. Premier travail du Conseil de l'Europe, travail gouvernemental, logique, on est une organisation intergouvernementale. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est l'ensemble de ce cadre normatif ayant été construit. En 2008, le Conseil de l'Europe adopte le livre blanc sur le dialogue interculturel qui invite le secrétariat du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire des gens comme moi, à développer des activités permettant de mettre en œuvre ces recommandations, de leur donner une traduction concrète dans les pratiques médiatiques, qu'ils soient des journalistes, des éditeurs ou des diffuseurs, pour qu'effectivement il y ait plus de diversité à l'écran. Je le répète, plus de diversité en termes de visibilité, mais aussi en termes d'expression. C'est pour ça que le Conseil de l'Europe a développé une première campagne, comme je le disais, dite non à la discrimination entre 2008 et 2010, qu'à l'issue de cette campagne, on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est comme c'était le premier travail, développé directement avec l'ensemble des acteurs de l'industrie médiatique, ces acteurs nous ont invités à continuer. On s'est dit, banco, on continue. La deuxième observation que nous avons faite, c'était de se dire, mais c'est vrai que quand on invite des journalistes ou des médias globalement à travailler sur cette question de la diversité ou non des discriminations, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer des sujets sur la diversité, des sujets sur la discrimination. Que ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment cette diversité peut être inclue, peut être intégrée dans l'ensemble des sujets qui participent du débat démocratique et public aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a une discussion publique sur, je ne sais pas moi, la construction d'une ligne de tram dans une ville, comment l'ensemble de la vie de chacun est pris en compte et non pas l'ensemble de la vie de certains, j'ai envie de dire, en jouant d'une provoque. Donc à l'issue de cette campagne, on a construit ce programme Mars en disant nous allons travailler sur les questions de sport, qui sont effectivement des questions particulières en plus en termes de couverture médiatique, mais prenons les questions de sport et voyons comment dans cette couverture médiatique du sport inclure cette diversité, cette non-discrimination. Je ne vais pas raconter beaucoup d'anecdotes, mais quand on a commencé à développer ce programme, on nous a dit « Ouais, mais bon, le sport, il y a des noirs, il y a des machins. » Oui, mais comment vous interviewez ces personnes? Comment vous interviewez ces femmes, par exemple? Comment vous interviewez ces personnes que vous percevez comme étant autres? Et on s'apercevra très vite, et les statistiques parlent pour elles, qu'effectivement, quand on n'appartient pas à ce qui est perçu comme étant de la majorité du groupe dominant, autrement dit, hommes blancs, etc., le traitement de l'information est différent. La preuve est, en contrario, quand Christophe Lemaître est passé en dessous des 10 secondes, le traitement médiatique de Christophe Lemaître est un traitement médiatique sur lequel, je pense, il aurait dû réagir, éminemment raciste. Éminemment raciste pour lui, éminemment raciste pour ses collègues qui courent, et éminemment raciste pour l'ensemble de la société. C'est moi qui parle en tant qu'individu, c'est peut-être pas forcément le Conseil de l'Europe. Tout ça pour dire, autre statistique par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a, quand on a travaillé le programme Mars, sur lequel on est resté pendant très longtemps, c'est une étude qui a été faite en 2005 par Play the Game, qui est une ONG danoise, qui a renouvelé l'étude en 2010, et les statistiques n'ont pas changé, et qui montre qu'une femme athlète a 4 fois plus de chances d'être couverte par une femme journaliste. Sauf que les femmes journalistes ne représentent que 5% de l'information sportive. Ce chiffre-là, à lui seul, couplé avec un autre chiffre qui vient du Global Media Monitoring Project, qui travaille sur les questions de genre, montre que 85% de l'information en Europe est faite par, pour et avec des hommes, point virgule, de plus de 45 ans, point virgule, appartenant aux classes moyennes supérieures. Alors, j'ai envie de faire une provoque, il est effectivement bien connu que 85% des sociétés européennes sont composées d'hommes de plus de 45 ans et appartenant aux classes moyennes supérieures. Vous comprendrez mon humour derrière. Ça veut dire qu'effectivement, au-delà de ce chiffre, de nombreux groupes de population, et à commencer par les femmes, mais de nombreux groupes de population sont exclus. D'où cette idée de dire, ok, la diversité, les questions de discrimination doivent être traitées en tant que telles dans l'espace médiatique. Mais voyons aussi et essayons de trouver ensemble des moyens permettant d'inclure cette diversité, cette non-discrimination dans des sujets complètement transversaux. Les questions d'accès à l'éducation, les questions d'accès au logement, je disais les questions de construction de trams, les questions de changement climatique, le débat politique, etc. D'où cette idée de Mars pour enfin trouver une traduction concrète au cadre normatif qui avait été construit, comme je le disais, dans un premier temps, par le Conseil de l'Europe, dont son comité directeur sur les questions de médias, et de voir effectivement comment aujourd'hui on avance sur cette question-là. Parce que le Conseil de l'Europe est éminemment convaincu que c'est un droit fondamental de l'homme, droit fondamental, j'ai envie de dire humain, pour ne pas mettre l'homme en avant, que toutes et tous participent de l'information et participent du débat public et démocratique. Alors, je ne sais pas si la France est un bon élève ou un mauvais élève, et j'ai envie de dire quelque part, ce n'est pas la question. C'est vrai que souvent, dans ces politiques médiadiversité, on cite l'exemple du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni a été précurseur, et ce n'est pas une question de loi, d'interdiction ou autre. Le Royaume-Uni a été précurseur pour un certain nombre de raisons, sociales, économiques, politiques, circonstancielles, début des années 80, à se dire effectivement comment dans les productions médiatiques, notamment dans la BBC, et ensuite ils ont créé Channel 4, et Channel 4 avait ce projet éditorial de couvrir l'ensemble des diversités du Royaume-Uni. C'est vrai qu'on cite souvent le Royaume-Uni comme un exemple d'eux, mais avec le recul, le Royaume-Uni et un certain nombre de rapports ont été publiés au cours des 4-5 dernières années, qui montrait qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de visibilité de gens à l'écran, etc. Grosso modo, toutes les minorités britanniques étaient représentées. C'est discutable, mais on va dire, le gros trait était représenté. Mais par contre, sur les questions de contenu, elles n'affluaient absolument pas. Pour revenir sur le cas de la France, ce débat sur ce qu'on appelle les fameuses statistiques ethniques est un faux débat. Concrètement, et on va mettre les choses noires sur table, Carte sur table. Le CS1, je pense que c'est en 2008, sous l'autorité de, enfin, sous la direction d'Éric Massé, a produit cette étude sur l'observation des productions audiovisuelles avec une catégorisation qui peut être critiquée, qui peut être forcément critiquable, non pas forcément critiquable, mais qui peut être critiquable, peu importe, mais qui montrait qu'effectivement, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais 82% de l'information était éminemment blanche, éminemment faite par et pour des hommes de plus de 45 ans, etc., etc., tout ce que je disais avant. Donc c'est possible de faire des choses en France, même y compris sur cette question-là. Il faut arrêter de croire que la Constitution française ne permet pas ça. Il y a plein d'États européens dans lesquels effectivement, cette mesure ethnique des choses n'est pas possible. Mais il y a plein de voies permettant d'évaluer et permettant de le mesurer. Et à partir de là, de se rendre compte de qu'est-ce qui peut être fait. Et alors, c'est vrai que la France a pris tout mal à la France. La France, comme d'autres États européens continentaux, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., etc., ont pris. Juste, et je rappelle, par rapport au Royaume-Uni, j'ai envie de dire la bataille en cours de route. Mais globalement, les choses bougent. Bien, pas bien, la question n'est pas là. La question, elle est de voir comment, à partir d'une expérience donnée, on continue à aller plus loin. Moi, je me refuse, en tant qu'agent du Conseil d'Europe, je me refuse de dire qu'il y a un État. Et ce n'est pas une question de bien, pas bien ou autre, etc. Ce n'est pas cette question-là. Cette question-là, c'est de voir et de comprendre comment chacun de nos États membres va prendre en compte de la mesure, va prendre la mesure de l'enjeu, de la participation de toutes et tous au débat public et démocratique, notamment via les médias. Et c'est cet enjeu-là. Après, on peut. La grosse difficulté qu'il y a et le gros écueil, et c'est ce que peut nous apporter le Royaume-Uni en termes d'enseignement, c'est qu'on peut passer par une politique volontariste d'accès de l'ensemble des personnes perçues à tort ou à raison comme appartenant aux minorités. On peut avoir une politique volontariste d'accès à. Si on ne prend pas en compte les questions et les sujets qui les préoccupent, on sera au milieu du gué, en fait. Et c'est cette question-là qu'on a essayé de traiter aujourd'hui, c'est de dire, ok, c'est bien d'avoir des représentants de ce qui est perçu comme étant des minorités à l'écran, dans les papiers, à la radio, etc., etc. Mais si on ne prend pas en compte les questions qu'ils portent ou qu'elles portent, on passera à côté de quelque chose. Une formation va être utile à partir du moment où la personne n'aura pas eu le déclic, j'ai envie de dire, dès la naissance, de la prise en compte de ces questions. À un moment donné, il faudra bien rattraper cette lacune. Et donc, effectivement, ça peut passer par la formation. Moi, j'ai souvenir d'une conversation avec une des toutes premières journalistes britannico-pakistanaise de la BBC, Anita Bala, qui disait, mais en fait, toute cette question-là autour de la diversité, c'est pas une question de diversité. C'est pas une question de formation, pardon. C'est une question de allons-nous arriver à se battre contre nos peurs. Et c'est la question de la peur que fait naître l'altérité en chacun de nous. En tout cas, pour moi, et là je m'exprime peut-être pas en tant que Conseil d'Europe, pour moi en tant qu'individu, cette question du rapport à la diversité, à la non-discrimination, c'est avant tout la question du rapport que chacun pose à l'autre. À l'autre dans ses différences, et effectivement, je peux avoir des préjugés, je peux avoir des stéréotypes. Quelque part, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est quand je vais utiliser ce prétexte du préjugé ou du stéréotype que j'ai pour m'autoriser, moi, en tant qu'individu, à exclure l'autre de la production médiatique, l'autre de la société en général. Et ça, c'est une vraie difficulté. Justement, si je reviens sur cette collègue, sur cette personne que j'ai rencontrée à la BBC Birmingham, Anita Bala, elle disait effectivement, quand elle est rentrée dans la rédaction de la BBC Birmingham, elle est arrivée avec son carnet d'adresse, qui était effectivement pas le même carnet d'adresse, le même carnet de contact que ses collègues blancs britanniques, donc c'était il y a 35 ans, et qu'elle a partagé son carnet d'adresse, en disant tu veux faire un sujet sur telle communauté ou telle autre communauté, ben, je vous ouvre mon carnet d'adresse. Et elle nous disait, mais objectivement, il y a 35 ans, je n'avais pas le même carnet d'adresse que mes collègues. Et mes collègues n'avaient pas. Et les carnets d'adresse se sont croisés. Et donc, du coup, il y a une pratique qui est entrée. C'est pour ça que quand quelque chose, j'ai envie de dire, a été raté au départ, la formation répond à ça, mais qu'après, dans la pratique, effectivement, il n'y a pas que la formation qui peut répondre à ça. Il y a l'idée de se dire, bah ouais, j'ai une collègue, indo-pakistanaise, britannique, qui est là, je peux lui demander tel contact, nanana. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de dire, mais comment parce que on peut aussi se dire, mais je ne sais pas comment s'adresser à ces personnes parce que je ne les connais pas. Ce n'est pas grave. Donc du coup, demander à cette collègue, mais ouais, alors là, sur cette question-là, tu ferais comment ? Voilà, et c'est ce qu'on a essayé de défendre comme idée dans cette rencontre européenne, c'est de, en demandant aux gens de travailler à deux autour d'un sujet devant inclure la diversité, de se dire, voilà, sur des points de blocage que tout à chacun peut avoir, comment tu les résous et quelles solutions, quel type de réponse tu peux mettre en place. Et c'est un peu cette idée-là, c'est de passer par une voie très concrète, très pratique, et qu'en espérant qu'au bout de jours, quand chacun rentre dans sa rédaction, il garde à la mémoire cette expérience. Les rencontres de Bordeaux étaient effectivement les dernières du projet Mars dans les 18 rencontres qu'on a organisées, etc. Le CRU en tant que tel, oui, effectivement, il y a une progression parce que c'est des gens aussi, ces rencontres ont réuni des gens avec lesquels on travaille depuis un certain nombre d'années, etc. Donc forcément, il y a une progression, ça bouge, et tant mieux. Et tant mieux. Moi, ce que j'ai aimé dans ce CRU, comme vous dites, bordelais, c'est le fait, in fine, et je trouve ça rassurant, que par rapport aux premières rencontres de ce type qu'on a fait à Séville, à Bari, à Istanbul, etc., on retrouve les mêmes questions. Alors, ça peut sembler paradoxal, mais ça me rassure, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément le même public qu'on avait à Séville, Bari, Istanbul, etc., ou pour certains, c'était les mêmes, mais du coup, les gens acceptent de s'interroger. Et ça, le fait de se poser des questions, même si c'est un terrain, une méthode de travail qui n'est pas sécurisante, qui n'est pas dans les habitudes de travail de chacun, etc., je trouve ça bien que les gens se posent des questions, que les gens râlent, que les gens se plaignent, c'est bien, c'est normal. Il y a, quelque part, il y a de la vie. Et donc ce CRU n'a pas été différent des autres, mais pour le coup m'a rassuré en disant « Oui, le journalisme bouge toujours, il y a de l'espoir, donc tout n'est pas perdu. » Après, dans la continuité de Mars, effectivement, on était sur un accord avec l'Union européenne de 2 ans, donc 2011-2012. L'accord est renouvelé pour 2013-2014, donc effectivement, comme vous disiez, sous le nom Médiane, parce qu'on a pris le sport comme un cadre de couverture médiatique, on n'a pas souhaité continuer... pas pour des raisons particulières, pour dire, mais on peut aller aussi sur d'autres sujets. Et notamment, Médiane va plutôt porter l'accent sur les pages sociétés, les pages politiques. Où là, on va rentrer dans, quelque part dans le cœur du débat, hein, la participation de l'autre, ou de ce qui est perçu comme autre, au débat politique et aux débats sociaux. Mais... l'ambition de Médiane est d'arriver, tout en reproduisant le même type d'activité, des rencontres au niveau européen sous régional ou même thématique, des échanges européens directs entre professionnels et médias, dans tout ce processus de production, d'arriver à la production de critères permettant à l'individu ou aux médias en tant que structure d'évaluer sa capacité pour l'individu ou sa capacité pour le média à inclure la diversité et de voir les secteurs dans lesquels l'individu ou le média devait agir pour mieux inclure cette diversité dans ce qu'il produit ou dans ce que les médias produisent en termes de contenu. C'est la différence entre Mars et donc le futur projet Médiane, c'est un, on ne focalise plus sur la question de sport, mais deux, on a une exigence d'arriver à quelque chose de concret qui puisse servir tout un chacun, chaque individu, ou qui puisse servir le média sur, voilà, j'essaye de faire machin, mais où est-ce que je pêche et comment je peux mieux faire, voilà.
La question de la diversité et la lutte contre les discriminations a progressé finalement ces dernières années.
J'espère, après je pense que c'est un combat permanent. C'est un combat permanent parce que le rapport à l'autre est un combat permanent. C'est demain, d'autres enfants vont naître et d'autres enfants vont découvrir que des enfants sont différents d'eux. par leur physique, par leurs origines, par leur mode d'éducation, etc., etc. Et il faudra recommencer. Après, on peut espérer une chose, c'est qu'effectivement, les petites pierres qu'on a posées aujourd'hui serviront à ces gens de demain. On n'en est pas sûr. L'histoire en témoigne. J'ai pas de garantie là-dessus. Et quelque part, peut-être tant mieux.